Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à l'Arctique. À quelques mois de la conférence mondiale sur le climat qui se tiendra à Paris, l'observation de l'Arctique comme révélateur du changement climatique est un élément important. De même qu'avec les grosses chaleurs de juillet, une fonte particulièrement sensible au sommet du Mont Blanc a été observée. Pour l'Arctique, il faudra attendre septembre pour tester au mieux les progressions et constater l'évolution éventuelle des passages autorisant la circulation des bateaux. Alors que l'on parle d'immenses réserves de pétrole et de gaz, les environnementalistes espéraient que la chute des prix du pétrole allait interrompre la ruée vers l'or noir de la région. L'anarchie menace-t-elle en Arctique? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Thierry Garcin, chercheur associé à l'Université Paris-Descartes, auteur de Géopolitique de l'Arctique, paru aux éditions Economica. Bonjour.
Et bonjour Marie-France.
Mikko Mered, président de Polarisk, secrétaire général du cluster polaire français et chroniqueur sur Radio-Canada pour l'Arctique. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
Et Franck Galland, expert des questions sécuritaires liées aux ressources en eau, auteur notamment de Le Grand Jeu, chronique géopolitique de l'eau aux éditions du CNRS. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
L'anarchie menace-t-elle donc en Arctique? C'est la question que l'on peut se poser au regard notamment de la toute récente déclaration émanant du forum réunissant les 5 états côtiers de l'océan Arctique, déclaration du 16 juillet, il y a donc quelques jours, posant un moratoire sur la pêche dans les eaux internationales de l'Arctique, tout en reconnaissant que le problème de la pêche à l'échelle commerciale ne devrait pas se poser dans un futur proche. Les 5 états côtiers, ce sont le Canada, le Royaume-Uni, le Danemark, la Norvège, la Russie, les États-Unis. Je pense au vote contrôle aux uns et aux autres. Quelle lecture faire de cette déclaration signée à Oslo au niveau des ambassadeurs de ces pays? Mikko Mered.
Alors, les 5 états, il n'y a pas le Royaume-Uni, hein. C'est le Danemark pour le Groenland. Il y a évidemment la Russie, la Norvège, les États-Unis et le Canada. Clairement, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, cette déclaration, elle est un petit peu contradictoire, dans le sens où, en effet, il est naturellement reconnu qu'il n'y a pas d'activité majeure, même quasiment pas d'activité du tout, dans les eaux internationales de l'océan Arctique central, actuellement, en termes donc de pêche commerciale. C'est pas quelque chose qui pourrait émerger dans un futur proche, c'est quelque chose qui pourrait émerger, en revanche, à l'horizon 25, 30 ans, 40 ans. Donc du coup, comme l'ont dit les différents États signataires donc de cette déclaration, donc au sein du Arctic Five, on en parlera je pense tout à l'heure, et non au sein du Conseil de l'Arctique, ce qui est clair, c'est qu'ils veulent pouvoir jeter les bases d'un potentiel cadre légal pour encadrer ces pêches commerciales le jour où elles émergent. Par contre, si on prend par exemple la façon dont ça a été couvert par des médias chinois, ce que vous disent les médias chinois aujourd'hui, c'est que ce qui se passe aujourd'hui en Arctique en termes des pêches commerciales, cet accord ne touche que les pays qui sont riverains de l'Arctique, mais les bateaux chinois pourraient tout à fait, à terme, aller dans ces zones-là, au-dehors du cadre.
Ce sont des zones internationales, si j'ai bien compris, avec ce risque, si j'ai bien lu aussi la documentation pour préparer cette émission, d'une sorte de remontée des poissons pour cause de réchauffement climatique.
Absolument.
Donc ils vont remonter vraiment au centre, et le centre correspond, Thierry Garcin, à ces zones internationales où finalement tout le monde pourrait aller pêcher. Et apparemment, là, les choses sont en train d'être verrouillées.
Les spécialistes vous disent des pêches qu'effectivement, d'une part, il n'y a pas d'organisation propre en ce qui concerne cette région donc océanique, puisque c'est un océan glacial arctique, et d'autre part, qu'il n'y aura sans doute pas, qu'on n'espère pas, de poissons au centre, c'est-à-dire sous l'actuelle banquise, c'est-à-dire qu'au fond, ce sont des poissons qui resteront aux abords des côtes, y compris évidemment les fameuses morues qui sont un poissons très appréciés dans le monde entier et qui sont ces morues très nombreuses là-bas, et elles remontent petit à petit avec d'autres espèces à la fois du Pacifique et de l'Atlantique, mais si vous voulez, au centre même de l'Arctique, il n'y a pas lieu, pense-t-on, d'espérer beaucoup de ressources halieutiques pour des tas de raisons, et en plus, comme vous le savez, c'est une véritable fosse marine très impressionnante, puisque même les Russes avaient en 2007 planté symboliquement un drapeau en titane pour affirmer leurs prétentions sur l'extension du plateau continental russe. Donc ce sera plutôt en bordure, ceux des côtes.
Alors, ce forum, j'aimerais qu'on en dise quelques mots. Arctic 5, donc Arctic 5, par opposition au Conseil de l'Arctique. Je reprends juste une déclaration de Michel Rocard, qui est le monsieur arctique en France, qui compare ce forum à un syndic de copropriété qui ne veut laisser entrer personne dans l'immeuble. Alors, c'est quoi cette relation entre l'Arctic 5 et le Conseil de l'Arctique? Est-ce que l'un et l'autre se neutralisent? Est-ce qu'ils se complètent? Mikko Mered.
En ce qui concerne donc le Conseil de l'Arctique, c'est un conseil qui a été créé il y a un peu moins de 20 ans, donc en 1996, et qui regroupe le Canada, l'Islande, la Norvège, la Suède, les États-Unis, le Danemark, donc via le Groenland, la Russie et la Finlande. Ce conseil-là, en fait, n'est pas normatif. C'est-à-dire que même quand il y a eu des accords en 2011 sur le partage des zones de search and rescue en Arctique, c'est pas le Conseil de l'Arctique qui a développé ce texte, c'est un accord entre les parties qui a été développé sous l'égide du Conseil de l'Arctique. Donc ça, c'est déjà une première importance. En ce qui concerne le Arctic Five, en gros, vous avez dans ces 8 pays de l'Arctique des pays qui sont côtiers. Donc vous avez, comme on les a cités tout à l'heure, 5 pays, et ces 5 pays-là se sont arrogés le droit, et c'est tout à fait naturel compte tenu de leur possession et compte tenu de la localisation de leur zone économique exclusive et de leur future revendication en termes d'extension de plateaux continentaux, de pouvoir discuter ensemble dans un cadre plus informel depuis 2008 de manière non régulière pour pouvoir développer des textes entre les 5 pays. La différence que vous allez aussi avoir, c'est qu'au niveau du Conseil de l'Arctique, vous allez avoir tous les 2 ans une réunion ministérielle. Oui. Cette réunion au niveau ministériel est assez surveillée, il se passe beaucoup de choses. C'est celle, par exemple, à laquelle Michel Rocard se rend depuis de nombreuses années maintenant, pour représenter la France en tant qu'observateur. La France est observateur au Conseil Arctique depuis 2000. Au niveau du Arctic Five, ce sont des réunions au niveau ambassadoriel, si vous me permettez cette expression. Discussions qui sont beaucoup plus multilatérales, directes. Et aujourd'hui, c'est un vecteur de discussion en Arctique très important, le Arctic Five.
Alors, on parlera bien sûr des aspects avec vous, Franck Galland, de l'eau et de l'environnement. Peut-être une fois qu'on aura parlé un petit peu pétrole, je me tourne vers vous, Thierry Garcin. Les questions juridiques, alors finalement, cette déclaration du forum de l'Arctic 5, Arctic 5, ça a une valeur ?
Oui, ça a une valeur parce qu'ils sont les 5 chez eux. Et d'autant plus, d'ailleurs, il faut toujours le rappeler, la Russie. Il l'avait très bien dit en 2008 lorsqu'il y avait eu la fameuse déclaration d'Ilulissat, qui est une ville au Groenland danois. Et ils avaient dit 2 choses très importantes. Ils avaient dit, nous sommes chez nous, pour ainsi dire. Ils avaient dit, d'autre part, nous allons respecter, nous 5, le droit de la mer, la fameuse convention de Montego Bay de 1982, que n'ont pas ratifié les États-Unis, mais qu'ils respectent. Et puis, d'autre part, nous allons donc, tout en reconnaissant le droit de la mer et en l'appliquant, nous allons régler nos affaires entre nous et ce sera fait par la négociation et ça sera très bien dans l'avenir. Donc c'est un club, le club des 5 comme on dit, et il est très différent du Conseil Arctique, parce que le Conseil Arctique il est à plusieurs tiroirs, c'est-à-dire il y a les 5 et puis ils en ont ajouté 3 autres qui n'ont pas de façade arctique, il faut toujours le rappeler, la Suède qui n'a pas de façade arctique, la Finlande qui avait jusqu'en 1940 une façade arctique, très limitée mais qui l'avait et qui ne l'a plus. Et puis, évidemment, l'Islande qui n'est en rien arctique, sauf pour les zones économiques exclusives de son nord. Parce que l'Islande est une île, évidemment, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est une île qui est en dessous du cercle polaire sur le plan terrestre. Elle n'a qu'une façade maritime, donc septentrionale nordique, qui regarde vers l'Arctique, qui est de l'autre côté du cercle polaire, si on pense traditionnellement que le cercle polaire est une bonne délimitation pour considérer l'Arctique.
Oui, parce que c'est pas une frontière au sens propre du terme.
C'est une frontière imaginaire, d'ailleurs.
Alors, justement, ces zones économique exclusive, où est-ce qu'on en est est-ce qu'il y a des conflits entre précisément les 5 pays riverains qu'on a évoqués depuis le début de cette émission, Mikomered?
Oui, il y a quelques conflits qui subsistent. Maintenant, les conflits qui subsistent, en fait, sont plus des conflits par rapport à la définition des détroits internationaux. Pour énumérer les différents conflits, il y a un premier conflit en matière de délimitation de la zone économique exclusive entre les États-Unis et le Canada, premièrement. Le deuxième, c'est évidemment entre la Russie et la Norvège, qui, même s'il y a eu un accord de délimitation en 2010, il y a quand même quelques questions qui subsistent. Et puis après, il y a le statut du Svalbard aussi, et la zone économique du Svalbard qui se pose et que les Russes posent. Mmh. Et enfin, vous avez un certain nombre de petits désaccords entre le Canada et le Danemark sur la zone ouest du Groenland. Ensuite, le vrai enjeu que vous avez, c'est la question de l'extension des plateaux continentaux. Mmh. Donc aujourd'hui, l'extension des plateaux continentaux n'a aucun impact sur la colonne d'eau, donc sur les ressources halieutiques qui s'y trouveraient à terme, même si en effet on pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Elle n'aurait en réalité aucun véritable impact non plus au niveau commercial sur les ressources qui sont dans le sous-sol. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, bon, la nature est un peu bien faite dans le sens où 95% des ressources minérales et hydrocarbonées de l'Arctique sont en offshore, sont à l'intérieur des zones économiques exclusives des pays de l'Arctique. Il y a moins, selon certaines estimations qu'on peut contester, mais bon voilà, moins de 5% de ces ressources-là qui seraient dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Donut Hole, donc l'océan central arctique international. Donc si vous voulez, les enjeux de délimitation de zones économiques exclusives ou les discussions par rapport au, à l'extension des plateaux continentaux sont plus des enjeux de souveraineté, d'affirmation de souveraineté. C'est de la symbolique politique plutôt qu'autre chose. Maintenant, il y a la question évidemment des détroits internationaux qui se posent. Est-ce que le passage du Nord-Ouest est un détroit international ou pas? Les Canadiens disent non. Tout le reste du monde, pour faire simple, dit oui. Même chose du côté de la Northern Sea Route, donc du côté russe, le passage du Nord-Est. Ça, c'est les vrais sujets aujourd'hui qui posent problème en matière de développement économique de l'Arctique.
Alors, tout cela m'amène à la question de la gouvernance. On le sait, en ce qui concerne le pôle Sud, il a été, ce pôle Sud, sanctuarisé au moins jusqu'en 2048. Le pôle Nord, lui, ne fait l'objet d'aucun traité international, d'où peut-être à la fois ces confusions. Michel Rocard parle même de pardon pour l'expression, mais de foutoir diplomatique, en tout cas de bazar diplomatique, pour le dire plus prudemment. Thierry Garcin, est-ce qu'on va vers quelque chose de rationnel, qui rentrerait dans une forme de gouvernance en ce qui concerne l'Arctique? Est-ce qu'il y a ce besoin ou est-ce que les choses vont se gérer comme elles le sont depuis le début entre ce forum Arctic Five et puis le Conseil de l'Arctique?
Effectivement, l'Antarctique est un territoire, une terre, et que l'Arctique est un océan dont la banquise fond de plus en plus, non seulement d'ailleurs en superficie mais en épaisseur. Mais c'est évidemment les rapports de force, entre gentlemen qui vont perdurer pour différentes raisons. C'est qu'au fond, il n'y a aucune raison de mettre une gouvernance arctique en place, dans la mesure où vous avez deux grands acteurs parmi le Club des Cinq, qui sont deux cas d'espèce. D'abord, évidemment, les États-Unis. Les États-Unis considèrent que l'Arctique est une zone intermédiaire sur le plan géopolitique d'ordre mondial. C'est un peu une Méditerranée, une mer entre les terres. Et donc là, ce serait une mer libérée de la capsule glacée de la banquise. Et donc, c'est un espace intermédiaire. Et puis, vous avez l'autre acteur fondamental, et qui est beaucoup plus important d'ailleurs que les États-Unis en la matière, c'est bien sûr la Russie. Si vous regardez la planète au-dessus du cercle polaire ou au-dessus du pôle Nord, la Russie englobe presque la moitié de la Terre. Elle a pour elle la géographie, la Russie, elle a pour elle l'histoire, elle a pour elle la connaissance remarquable de l'Arctique depuis des siècles, elle a pour elle également les moyens. C'est le seul pays qui peut aligner des brise-glaces à propulsion nucléaire qui sont de véritables molosses et des mastodontes dont tout le monde a besoin pour emprunter la route donc du Nord, la route qui longe toute la Russie. Et puis ces deux acteurs donc sont tout à fait exceptionnels, et il faut bien dire que aucun des deux n'a intérêt à une gouvernance proprement interne à l'Arctique, car ils ont des visions totalement différentes. Les États-Unis ont une vision mondiale de l'Arctique et la Russie a une vision régionale de l'Arctique. Ils n'en démordront pas, l'Arctique restera largement dépendant, encore une fois d'ailleurs d'une certaine façon, de rapports est-ouest renouvelés entre guillemets.
Franck Galland.
Je vais exactement dans le sens de ce que vient de dire Thierry Garcin, et j'allais ajouter que la Russie a aussi un savoir-faire d'extraction et de production gazière et pétrolière spécifique à l'Arctique. On le voit sur les gisements de Sibérie occidentale, sur le fameux gisement de Stockman dans le domaine gazier, de Karaga dans le domaine pétrolier, et ceci permet d'expliquer que nos amis russes veulent étendre leur souveraineté sur 18% du territoire arctique, compte tenu de la richesse de ce qu'ils ont dans leur sous-sol, puisque effectivement ces gisements pétroliers et gaziers sont dans des zones économiques spéciales.
Et très souvent d'ailleurs dans des zones terrestres, près de 80% du gaz russe, il est à terre, il n'est pas en mer. En Sibérie, évidemment.
Et vous faites très bien de le rappeler pour une raison très simple, c'est qu'en France, on a tendance à limiter l'Arctique à la zone océanique. Or, tous les acteurs de l'Arctique vous disent d'abord l'Arctique est une terre. C'est une terre parce qu'il y a des gens qui y habitent, premièrement, et parce qu'en effet, la distribution des ressources fait qu'elles sont majoritairement à terre. Si on prend le cas de l'Arctique russe, selon les estimations et les estimations américaines, donc du coup, on n'a pas de problème de chiffres, n'est-ce pas? L'estimation totale des réserves naturelles dans l'Arctique russe, onshore et offshore, s'élèverait à plus de 22 000 milliards de dollars de ressources. Mais aujourd'hui déjà, l'Arctique russe, selon la définition russe de l'Arctique en termes géographiques, représente déjà 20% du PIB de la Russie, 60% des exportations de raw materials,
de matières premières,
je vous remercie. Et en termes de réserves, c'est 91% des réserves de gaz naturel, 85% de nickel, 95% de terres rares, 99% de diamants, et j'en passe. Donc si vous voulez, en effet, il y a une distribution des ressources qui fait que l'Arctique est d'abord une terre avant d'être un océan. Et enfin, pour revenir sur la gouvernance rapidement, le Conseil de l'Arctique, on l'a mentionné, est quelque chose d'assez intéressant. C'est protéiforme, c'est assez hybride, le fonctionnement est assez complet. complémentaire par rapport au Arctic Five. Il est aussi complémentaire du Northern Forum, qui est encore un autre forum de discussion entre municipalités et États au sein donc de l'Arctique. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a la question des observateurs au Conseil de l'Arctique qui se pose. La France est observateur depuis 2000. Aujourd'hui, il y a 12 pays observateurs, beaucoup d'autres ONG, etc. sont membres observateurs du Conseil de l'Arctique, et l'Union européenne cherche à devenir membre observateur depuis 2009, même depuis avant en réalité. Donc si vous voulez, vous avez quand même une prépondérance de vouloir être dans le Conseil de l'Arctique, au moins en tant qu'observateur. C'est la raison pour laquelle vous avez des États aujourd'hui qui développent des candidatures pour devenir observateur au Conseil de l'Arctique, et des États qui sont pas du tout arctiques, qui ont des logiques complètement géoéconomiques, au sens commercial du terme, comme par exemple la Grèce, comme par exemple la Suisse, comme par exemple la Mongolie. En ce qui concerne donc 2017 et 2019, les prochaines fois que des candidatures seront étudiées, on parle aussi de l'Australie, on parle du Mexique, on parle
Des Saoudiens.
On parle des Saoudiens, on parle des Émirats Arabes Unis, on parle du Qatar, on parle de l'Égypte.
Bref, tout le monde veut en faire partie, si je comprends bien. Alors, ça va rajouter peut-être.
Vu les richesses, 22% des ressources énergétiques non découvertes, mais techniquement exploitables, sont effectivement en Arctique. On comprend pourquoi, effectivement, ces ressources sont convoitées par ces États riverains et ces États plus lointains. Et ce qui est très intéressant aussi, et on arrive progressivement au problème de l'eau et de l'environnement, c'est que l'Arctique représente l'ultime réserve, avec l'Antarctique bien sûr, d'eau potable non salée dans le monde. Et ça aussi, ça intéresse les pays du Golfe. Vous avez sans doute entendu parler des grands transferts d'icebergs. Ça devient une source d'intérêt de plus en plus importante pour ces monarchies du Golfe. Alors on rêve un peu peut-être, mais bon, aujourd'hui avec les techniques existantes, de transport de conteneurs, avec les bâches souples que vous pouvez avoir dans les conteneurs, effectivement, ce sont des réalités économiques qui sont en train d'être étudiées, et je ne parle pas de l'exploitation des ressources en eau de l'Arctique, d'un point de vue eau de source et eau minérale. Là, il y a effectivement un certain nombre d'entreprises de la région arctique qui se sont lancées dans cette activité excessivement lucrative, et que vous retrouvez, y compris sur les étals du bon marché aujourd'hui.
Donc on n'attend pas que l'iceberg fonde, on va le couper en gros morceaux et on le met dans des conteneurs. C'est ça que j'ai compris, Mick O'Merrell.
Il y a deux possibilités, et on rêve pas, puisque ça a été testé en 2014, et que par exemple, si on prend le cas du Groenland, il y a deux gros acteurs aujourd'hui sur le marché de l'eau douce arctique exportable. C'est les territoires du Nord-Ouest au Canada, qui développent une vraie stratégie agressive vis-à-vis du Japon et de la Chine en la matière, et vous avez évidemment le Groenland. On a réalisé une étude l'année dernière sur la question du Groenland, et on a vu qu'en scénario haut, le Groenland pourrait développer un marché de 450 millions d'euros en termes de water industry, donc l'industrie de l'eau douce en Arctique sous toutes ses formes. Et donc du coup, l'année dernière, il y a eu un test qui était de découper donc des icebergs, de les mettre dans des containers et de les envoyer à Copenhague pour les embouteiller et après les exporter. Ça existe déjà depuis un certain nombre d'années. Et puis après, évidemment, en 2011, il y a eu le test de faisabilité numérique 3D pour l'exportation d'icebergs avec donc une jupe isothermique que vous mettez sur un iceberg qui est déjà dans l'océan et donc que vous tractez.
Ce qu'on appelle aussi les sacs méduses. Des sacs méduses, c'est-à-dire pour tracter comme des méduses, pour tracter effectivement des blocs de glace. Mais je trouve que cette modernité est à la fois riche d'opportunités, mais surtout de menaces pour l'Arctique, notamment fait naître des professions formidables, professions qui n'existaient pas il y a 10 ans, pêcheurs de glace. Ces gens-là deviennent des pêcheurs de glace dans le but de les mettre en bouteille, dans le but de les transporter sur de longues distances, pourquoi pas jusqu'au Golfe. Et là aussi, l'Arctique, ça nous fait penser à l'ouverture de nouvelles routes de navigation, mais ça nous fait penser aussi à de nouveaux transferts d'eau possibles, alors en petite quantité, bien évidemment, mais ce sont des choses à suivre, et c'est sans doute pour ça que les pays du Golfe s'y intéressent de plus en plus.
Thierry Garcin, un commentaire sur donc ces ressources multiples. Alors c'est vrai que celle de la glace et de l'eau, j'y avais pas pensé.
Gaz, pas de difficulté, notamment avec la liquéfaction du gaz qui permet de transport beaucoup plus pratique, même si il est très coûteux. Pour l'eau, on en a parlé. En revanche, il faut être extrêmement prudent et mettre 14 bémols pour le pétrole. Total, Marjorie, son président, avait dit en 2012 qu'il n'était pas question à haute latitude de forer ou d'exploiter du pétrole. L'accident de BP Golfe du Mexique 2010 avait effrayé tout le monde. C'était très près de tous les moyens de secours remarquables du Mexique, des États-Unis, etc. Ça a été une catastrophe. Ça a été une fortune, d'ailleurs, pour BP de payer les dommages et intérêts. Le résultat étant que je ne vois pas du tout du pétrole exploité à haute latitude. Il fait noir la moitié de l'année. Il n'y a aucun moyen de secours. Une fuite serait une véritable catastrophe mondiale.
Justement, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Thierry Garcin, vous avez fait la transition géopolitique. Nous vous retrouvons tous les trois, Thierry Garcin, Mick O'Merrell et Franck Galland, dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur l'Arctique. Nous retrouvons nos invités. Thierry Garcin, chercheur associé à l'Université Paris-Descartes, auteur de Géopolitique de l'Arctique, paru aux éditions Economica. Nico Méret, président de Polarisk, secrétaire général du cluster polaire français. Et Franck Galland, expert des questions sécuritaires liées aux ressources en eau, auteur notamment de Le Grand Jeu, chronique géopolitique de l'eau aux éditions du CNRS. Nous avons quitté la première partie de l'émission sur les questions de pétrole. Ce que l'on sait, et je parle sous votre contrôle aux uns et aux autres, c'est que la région arctique donc renfermerait, selon une étude de l'Institut de géophysique américain de 2008, 13% des ressources mondiales non découvertes de pétrole, davantage. Vous me faites signe que je suis donc en dessous. Alors le chiffre, c'est quoi ?
Le chiffre, c'est aux alentours de 600 milliards de barils équivalent pétrole si on prend pétrole et gaz, ouais, ce qui est une estimation russe. Et si on rajoute en fait les schistes, là on arriverait aux alentours de 800 à 900 milliards de barils équivalent pétrole, tout compris.
Mais ça fait tellement de zéros, je vais vous dire que moi je ne sais pas ce que ça fait, ça représente quoi finalement à l'échelle des réserves potentielles mondiales, que ce soit en termes de pétrole ou de gaz, c'est donc plus de 13%, vous me l'avez dit.
Ce serait, si on prend pétrole et gaz, tout ouais, compris, et donc schiste, on serait sur un quart des réserves mondiales.
Oui, d'accord, donc j'étais vraiment en dessous, sauf que moi j'avais en termes de pétrole 30%, donc finalement ça s'équilibrait presque. Thierry Garcin.
L'organisme américain de 2008. Et d'ailleurs, les Américains auraient mieux fait de se taire parce qu'en fait, on n'en sait pas grand-chose. Ouais. Ce sont des réserves non prouvées.
Ouais. Alors, en tout cas, la question qui se posait ces derniers temps avec l'actualité en ce qui concerne la baisse des prix du pétrole, c'était de se dire que finalement, l'exploration et les perspectives d'exploitation des gisements seraient éventuellement freinées. En tout cas, sur 60 gisements découverts en Arctique, 43 sont russes. C'est dire aussi l'omnipuissance de la Russie. Alors, Thierry Garcin, vous parliez de Christophe de Margerie, donc décédé tragiquement cet hiver à Moscou, qui, lorsqu'il était à la tête de Total, affirmait que les industriels devraient s'abstenir de chercher du pétrole dans ces eaux, car les risques liés à l'environnement, Franck Galland, vous nous en parlerez, ils sont trop élevés. Ce que l'on voit au jour d'aujourd'hui, c'est que la société Shell, qui a vu l'une de ses plateformes de forage s'échouer en mars 2013, être à nouveau autorisée par les autorités américaines à revenir sur le plateau arctique d'où elle avait été expulsée en 2013, et Gazprom qui explore à tout va et exploite aussi à tout va.
Et Rosneft, et ExxonMobil, et Eni, et Statoil, tout le monde y est, que ce soit en onshore, tout le monde y est. En ce qui concerne l'offshore, donc le maritime, l'exploration maritime, là c'est beaucoup plus difficile. Et en fait, ce que disait donc Christophe de Margerie à l'époque, c'était que Total n'irait plus dans les zones de banquise en offshore. Ça ne veut pas dire que Total n'irait plus en Arctique en onshore sur des schistes ou sur du conventionnel ou même dans les eaux immédiates, les eaux territoriales de l'Arctique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit tout le monde s'intéresser au-delà donc des réserves conventionnelles aux schistes en Arctique. Si on prend par exemple la dernière déclaration du gouvernement des territoires du Nord-Ouest au Canada. Donc c'est une des provinces du Canada. Ce qui a été annoncé, c'est qu'il y aurait dans cette province-là, qui est Arctique de bout en bout, en tout cas considérée Arctique dans son intégralité, jusqu'à 200 milliards de barils l'équivalent pétrole seulement là-bas si on prend en compte les schistes. Donc si vous voyez, tout le monde y va de son chiffre et ça crée une espèce de bulle. Et ce qui a posé problème notamment aux ONG écologistes ces derniers mois, c'est que en effet, même si à court terme on a vu un certain nombre de programmes se mettre en stand-by, il y a un certain nombre de majors qui continuent à aller en Arctique cette année en 2015. Donc Eni, Statoil, Shell, ExxonMobil, Rosneft, Gazprom, Lukoil, je peux en citer plein. Et après ça, sur le long terme, il y a des enjeux qui sont absolument considérables et qui nécessitent qu'on sécurise des réserves dès aujourd'hui. Si je prends par exemple les deux projets les plus emblématiques de l'Arctique sur le gaz naturel, il y a d'abord Yamal, dans lequel vous avez Total qui est impliqué avec Novatek et CNPC, les Chinois. Et vous avez de l'autre côté en Alaska, Alaska LNG, qui est un projet à 67 milliards de dollars. C'est absolument considérable. Donc c'est pas des projets à court terme qui vont s'arrêter.
Franck Galland.
Oui, mais au-delà des problématiques d'extraction et des incidents tout à fait possibles, hein, on a vu malheureusement le cas, comme vous le citiez Thierry Garcin, de BP dans le golfe du Mexique, se posent à l'évidence aussi des problèmes de gestion de base vie. Derrière les équipements, il y a des hommes, il faut les nourrir, il faut les ravitailler. Et les enjeux environnementaux sont déjà présents. Il faut savoir que des scientifiques, par exemple, qui étudient les écosystèmes arctiques, ont découvert plusieurs polluants déjà présents et des polluants qui viennent de sources assez lointaines. Hein, on parle notamment de produits organiques persistants, comme des pesticides, des PCB, que nous exportons depuis l'Europe continentale.
Ce sont les courants
les courants atmosphériques, qui les conduisent jusqu'au Grand Nord. Vous avez des métaux lourds, comme le mercure, le cadmium, le plomb et des radionucléides. Et en fait, cet Arctique aujourd'hui est confronté à des problèmes de pollution majeurs qui vont être encore accentués par cette exploitation de l'Arctique, par les transports de biens, de marchandises, d'hommes travaillant sur zone. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on assiste à une forme de contamination de la chaîne alimentaire qui finit par se poser en Arctique, avec des risques à l'évidence pour la santé humaine, pour les habitants de l'Arctique. Et l'Arctique ne pourra pas résoudre ces problèmes environnementaux tout seul. Ce ne sont pas les clubs des 5, le club des 10 qui arriveront ensemble, d'un point de vue technique, technologique, à répondre à ces enjeux de pollution. À la fois la pollution que nous exportons et la pollution qui est créée, qui a été créée depuis une quinzaine d'années, qui sera encore plus créée dans les années à venir, puisque je suis de ceux qui pensent que malheureusement, cette extraction des ressources de l'Arctique ne fait que commencer. Et si on ajoute à cela l'ouverture de nouvelles routes de navigation, les problèmes vont évidemment se poser. Donc tout est une question derrière de savoir-faire. Et là, il va falloir que nos dirigeants soient particulièrement clairvoyants sur le sujet, parce que le savoir-faire technique, il existe. Exploiter proprement, ça existe. Avoir de la maintenance préventive, de la maintenance corrective pour éviter les incidents, ça fait partie du professionnalisme des compagnies pétrolières et gazières, ça fait partie aussi des réponses que peuvent apporter les grands opérateurs de l'environnement. On a la chance d'avoir trois grands opérateurs français que sont Veolia, Suez Environnement et Lassor, qui accompagnent au quotidien l'industrie gazière et pétrolière, l'industrie minière, dans des zones soumises à stress hydrique. Rappelons juste un chiffre, 76% des projets des Big Six miniers sont dans des zones soumises à stress hydrique. Bon, ces grands opérateurs peuvent à l'évidence aider les compagnies pétrolières et minières à exploiter proprement en Arctique.
Mikko Merad, très rapidement, après ça, j'ai une question pour Thierry Garcin.
Pour compléter le point de Franck Galland, il y a aussi un certain nombre de start-up qui se sont développées, et c'est ce qu'on essaie aussi de faire connaître via le cluster polaire, des gens qui n'ont jamais mis les pieds en Arctique et qui pourtant se sont intéressés à la question et qui développent des innovations tous les jours.
Sur quoi, par exemple?
Par exemple, si jamais il y avait donc une marée noire ou s'il y avait une fuite de pétrole, pouvoir aller manger, si vous voulez, en surface et un petit peu en profondeur, ces particules de pétrole. Voilà, il y a plein de start-up à faire connaître, ça peut être une industrie à développer en France d'exploitation propre.
Franck Galland, très rapidement.
Oui, très très rapidement. J'ajoute aussi que le Grand Nord, c'est un territoire d'expérimentation de la résistance des matériaux au grand froid. Les Américains y ont pensé très très tôt, ça fait 30 ans que Boeing et Airbus testent leurs équipements en Alaska. Parce qu'on oublie trop souvent que Saint-Pierre-et-Miquelon est quand même très très proche de l'Arctique. On a cette capacité, potentiellement, à aller tester en zone de grand froid des équipements qui devront être plus résistants demain pour éviter les incidents majeurs.
Thierry Garcin, on a parlé pétrole, les risques, alors juste pour nos éditeurs, savoir aussi que l'exploitation du gaz est sans commune mesure en termes de risque de pollution que le pétrole, on est bien d'accord là-dessus. Vous avez quelque chose à rajouter sur le pétrole?
Oui,
mais
je serais très, très mesuré dans la perspective de l'Arctique comme un Eldorado, on va dire, pétrolier. Il y a trop de risques, on va revenir à une certaine raison. Il y a eu en 89, rappelé, cette marée noire en Alaska, l'Exxon Valdez, qui a été une catastrophe. C'est vrai que le commandant était ivre, mais enfin, ce sont des milieux hostile, on oublie cela. D'autre part, on est loin des consommateurs. Pour exploiter le pétrole en Arctique, ce sont des investissements à très long terme, sur 20 ans, 25 ans, etc. Souvent, il faut 10 ans avant de retirer la première goutte de pétrole. Donc, ça refroidit aussi non seulement les compagnies pétrolières, mais les financiers, mais les assureurs, etc. Vous avez un pays qui est très exposé à la marée noire, le pauvre, il n'y est pour rien. C'est la Norvège, qui est une côte très dentelée, les fjords, qui est magnifique, etc. Notamment, potentiel touristique, et ils y sont parvenus à reculer, vous savez, le fameux rail qui est emprunté par les pétroliers un peu plus loin des côtes il y a quelques années. Mais la Norvège est un pays qui, si elle connaissait une marée noire, une avarie dramatique, c'est très compliqué. Et puis, vous avez aussi le prix du pétrole. Le prix du pétrole a chuté l'année dernière d'une façon considérable par des décisions essentiellement saoudiennes, avec des répercussions d'ailleurs non seulement économiques, mais géopolitiques. Quand vous regardez les cours du pétrole sur 30 ans passés, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça reste très aléatoire et très dépendant de la politique. De la politique beaucoup plus que de l'économie. Alors, le pétrole de l'Arctique, s'il est à terre, pas de problème. S'il est en mer, à haute latitude, je n'y crois pas vraiment.
On n'a pas parlé, mais peut-être on peut le faire très rapidement, de ces routes qui permettent donc de raccourcir les temps de transport. Et j'aimerais aussi qu'on aborde les questions de militarisation de l'Arctique. Mikko Merad.
Très rapidement, sur le transport maritime, il y a deux paradigmes qui s'affrontent. Il y a un vieux paradigme qui, en effet, n'a pas été fructueux. C'est en gros, si vous partez de Busan, en Corée du Sud, et que vous voulez aller à Rotterdam, en passant par la route du Nord-Est, donc le long des côtes russes, pour faire simple, et norvégienne, vous allez gagner 32% en termes de distance, vous allez gagner 27% en termes de temps, vous allez faire des économies, c'est intéressant, mais vous n'avez pas d'infrastructure pour l'instant, et la façon dont le marché du transport maritime fonctionne fait que ce type de paradigme ne fonctionne pas. Donc il y a énormément d'idées de hub qui émergent en Arctique. Et cette idée de hub, elle marche de la façon suivante. En gros, vous auriez un premier hub pour toute la façade pacifique qui serait localisée en Alaska.
Juste, alors hub, vous pouvez nous préciser, Mikko Merad,
hub,
c'est un grand aiguillage.
Absolument, absolument. Et vous mettez votre conteneur sur votre navire pas brise-glace, hein, à Shanghai, à Busan, à Yokohama, où vous voulez. Vous l'envoyez en Alaska, à Nomi Port Clarence, ou vous l'envoyez à Nadir, côté russe. Voilà, ce sont les deux hubs de transbordement qui se développent côté mer de Bering. Là, vous mettez votre conteneur sur un brise-glace absolument géant. Ce brise-glace absolument géant, il passerait non pas par la route du Nord-Est, le long des côtes russes, mais directement par la route transpolaire, c'est-à-dire via le pôle Nord géographique. Et là, il déchargerait soit côté norvégien, par exemple à Kirkenes, soit côté russe à Mourmansk, mais le plus efficace, ce serait de décharger, en fait, d'un point de vue géostratégique, en Islande. Voilà. Et là, après, vous dispatchez ça sur toute la façade atlantique européenne comme américaine. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous avez des projets de hubs secondaires régionaux qui se développent, par exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Halifax ou à Portland.
En tout cas, ce que j'entends aussi, c'est qu'il va falloir, dans notre connaissance de la géographie, apprendre de nouveaux noms.
oui,
des noms de villes, des noms... Thierry Garcin.
Et surtout pas les Groenlandais, parce que là, c'est horriblement compliqué.
Bon, on peut peut-être les simplifier phonétiquement parlant. La militarisation de l'Arctique, Thierry
Garcin. Alors, oui, il y a beaucoup de... Ça, c'est très américain. Il y a beaucoup de bruit de bottes. La militarisation de l'Arctique, c'est marqué à la culotte les Soviétiques ou plutôt les Russes en disant qu'ils s'installent d'abord ceux qui ont le plus long littoral, ceux qui sont le plus actifs, c'est eux qui ont le plus de moyens et c'est eux qui, comment pourrait-on dire, ont une mauvaise humeur atavique. Donc c'est normal qu'ils militarisent d'une façon terrestre et maritime leur littoral.
Moi, ça ne gêne pas. Et puis, ils se sont victimisés un petit peu par la fonte des glaces en se disant voilà, par le nord, on sera plus protégé.
Oui, et puis par la route transpolaire, dévalorisera par mécaniquement la route du Nord-Est, c'est-à-dire la route le long des côtes russes. Alors, militarisation, je veux dire, paradoxalement, elle est déjà bien en place, non pas d'une façon terrestre, mais d'une façon spatiale, parce que l'État le plus intéressé par la militarisation de l'Arctique, eh ben, ce sont les États-Unis, parce que grâce à ces latitudes très hautes, ils peuvent développer des antimissiles, un réseau qui est en place d'antimissiles, Alaska, des moyens évidemment adaptés à terre, Groenland et ainsi de suite.
Ce qu'ils ont fait de tout temps, Thierry
oui,
Garcin.
Mais oui, mais absolument, parce que la route arctique était la route de l'apocalypse nucléaire. Et hypothèse d'école, des missiles soviétiques intercontinentaux auraient frappé des villes américaines dans les années 60, par exemple, hypothèse d'école. Ils auraient traversé en 20-25 minutes le pôle Nord, l'Arctique, auraient traversé, évidemment, les étendues glacées du Canada, si vastes, et ils seraient allés sur telle ou telle ville américaine. Et en représailles, bien entendu, les États-Unis auraient adopté d'ailleurs la même route. Mmh. Alors, déjà ça, la route nucléaire arctique était tout à fait vraiment la route de la guerre froide et de l'apocalypse. Et d'autre part, l'initiative de défense stratégique, c'est-à-dire au fond ce qu'on a appelé la guerre des étoiles, utilise beaucoup ces latitudes très hautes pour des raisons purement physiques et balistiques et spatiales. Les armes antimissiles sont très adaptées à l'Arctique, ou je dirais plutôt le contraire, l'Arctique est très adaptée aux armes antimissiles. Et les armes antimissiles pour les États-Unis, c'est une vision mondiale de leurs intérêts stratégiques.
Mes camarades.
Très rapidement, ce qui se passe aussi en termes de militarisation, c'est qu'il y a un côté commercial à la chose. Aujourd'hui, si vous voulez que l'Arctique se développe, et les Russes veulent que l'Arctique se développe, les Canadiens veulent que ça se développe, les Groenlandais eux-mêmes, on l'a pas dit, mais par exemple, si je pense à un sondage qui a été fait il y a quelques années au Groenland, ce qu'ils considèrent comme étant les deux plus gros risques en termes de politique économique, c'est un, une marée noire, deux, Greenpeace. Donc si vous voulez, en termes...
Les environnementalistes.
Les environnementalistes de manière générale, mais là c'était Greenpeace qui était testé spécifiquement dans le sondage. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que tout le monde veut en effet profiter de cette manne. On a parlé d'Eldorado, en effet c'est un Eldorado, mais à long terme. Quand par exemple Statoil dit je veux partir en Arctique, d'abord je fais en fonction de la technologie que j'ai existante aujourd'hui, je développe de la R&D pour l'appliquer d'ici 10-15 ans, de la recherche et développement pour l'appliquer d'ici 10-15 ans, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils fonctionnent par palier. Maintenant, en termes de militarisation, il y a donc un côté sécurisation aussi de tous ces enjeux commerciaux. Si vous voulez que votre route maritime se développe, vous devez la sécuriser. Et c'est tout l'enjeu des Russes. Quand on dit aujourd'hui que depuis le 1er décembre 2014, il y a un commandement arctique unifié en Russie, si on dit qu'il y a sur les 5 prochaines années de programmer le développement de 10 bases de search and rescue sur la côte russe en Arctique, 13 stations aériennes, 10 stations de radar, etc., etc., on part vraiment de sécurisation de la région aussi pour séduire les investisseurs et le secteur de l'assurance.
C'est, venez chez nous, passez par chez nous, vous serez sûr de pouvoir aller là où vous avez décidé d'aller, Franck Galland.
Oui, il y a un grand pays dont on n'a pas encore parlé, mais la fin de mission arrive très vite. On peut pas parler de tout, mais c'est la Chine.
Oui.
Et quand on parle de militarisation vis-à-vis de l'Arctique, moi, je serais très intéressé de suivre dans les années à venir la manière dont la marine chinoise va se positionner justement pour sécuriser ces ouvertures de nouvelles routes de navigation qui risquent une nouvelle fois de redonner à la Chine un nouvel élan à l'heure où la Chine semble un peu s'essouffler en termes de croissance. Les chiffres que Mikko Mered nous donnait tout à l'heure de réduction de temps de trafic doivent à l'évidence s'accompagner d'une flotte de surface et d'une flotte sous-marine capable d'accompagner ces mouvements. Et je peux vous assurer que, du moins dans le domaine des sous-marins, nos amis chinois sont particulièrement attentifs à pouvoir intervenir sur cet axe, comme pouvoir intervenir sur le Pacifique, dans le golfe du Bengale et dans l'océan Indien.
Juste peut-être Marie-France, la militarisation, elle ne pourra pas ne pas advenir pour une raison simple, mais c'est pour des moyens civils. C'est-à-dire que tout ce qui concerne recherche et sauvetage ne peut, à ces latitudes-là, ne dépendre que de moyens militaires, qu'ils soient russes, américains, le moment venu, canadiens, enfin des puissances non riveraines. Mais bien entendu que la militarisation, elle est importante, mais à des fins civiles. Et vous avez évidemment un domaine clé où la France est bien placée, entre autres. Elle n'a pas que des handicaps en Arctique, même si elle est historiquement tournée vers l'Antarctique, c'est la cartographie via les satellites extra-atmosphériques, c'est-à-dire que nous avons un savoir-faire tout à fait remarquable, et il faut le dire, sans cocorico, et là, effectivement, on ne pourra travailler dans l'Arctique qu'à partir de cartes qui soient solides, qui soient réelles. Et il y a un manque considérable de cartographie pour tous les pays du monde, à commencer par les 5 riverains, en matière de cartographie. Donc, on est très loin d'une militarisation à des fins militaires.
Mais comme Irène.
Tout à fait, et c'est pour ça que des sociétés comme Eutelsat ou Airbus Group sont absolument stratégiques en la matière. Aujourd'hui, le PIB de l'Arctique, donc en 2014, il est aux alentours de 615 milliards de dollars. Si on prend donc l'ensemble du PIB de l'ensemble de l'Arctique, quoi. En 2035, nos projections à Polarisk, c'est que le PIB pourrait aller jusqu'à tripler, et en rythme annuel, on pourrait parler de 2100 milliards de dollars de PIB. C'est pas des chiffres qui sont absolument mirobolants, parce que dans le même temps, le PIB mondial, selon BP et selon Shell, pourrait passer de 80 trillions de dollars, donc c'est-à-dire 80 000 milliards de dollars aujourd'hui, à plus de 200 à l'horizon 2035. Mais au-delà donc de la militarisation, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a le côté infrastructure. Toute cette militarisation-là, donc à fin civile, va générer des intérêts en termes d'infrastructure. On voit aujourd'hui que des grandes compagnies comme Carlyle ou Guggenheim Partners sont extrêmement intéressées pour développer ces infrastructures parce qu'elles apportent évidemment des retours sur investissement. Et enfin, donc sur la militarisation pure, il y a aussi tout le côté innovation qui va derrière. Voilà, aujourd'hui la Chine, pour ne parler que d'elle, il y a un projet qui a été présenté un petit peu en catimini il y a 3 mois de ça. L'équivalent du RTE chinois voudrait installer jusqu'à 80 000 TWh, donc une ferme d'éoliennes offshore de 80 000 TWh, dans les eaux internationales de l'océan Arctique, au niveau du pôle Nord, de manière à pouvoir après tendre des énormes câbles et exporter toute cette électricité vers l'Amérique, vers l'Europe et vers le continent asiatique. Pour faire ça, il faut que la Chine puisse sécuriser ses intérêts. Et donc, du coup, il y a une militarisation, comme ça l'a été rappelé, qui est nécessaire.
Donc, en tout cas, ce que j'ai compris aussi, c'est que cet Arctique, eh bien, il était l'occasion pour les puissances planétaires d'améliorer, de faire de la recherche, une sorte de projection en avant, avec donc les deux grands acteurs, vous l'avez dit Thierry Garcin, les États-Unis et la Russie, et l'autre grand acteur évoqué par Franck Galland, la Chine, dont on attend de voir ce qu'il va se passer. En tout cas, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Thierry Garcin, chercheur associé à l'Université Paris Descartes, auteur de Géopolitique de l'Arctique, paru aux éditions Economica. Mikko Mered, président de Polarisque, secrétaire général du cluster polaire français et chroniqueur sur Radio-Canada pour l'Arctique. Et Franck Galland, expert des questions sécuritaires liées aux ressources en eau, auteur notamment de Le Grand Jeu, chronique géopolitique de l'eau, aux éditions du CNRS. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Samedi prochain, Géopolitique vous sera présenté par Sophie Malibaud. À très bientôt.